Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, celle qui va de Toulouse jusqu'au pied des Pyrénées, et nous allons parler santé et bien-être et surtout être en forme. Être en forme comment ? Être en forme par une pratique, on sait très bien que souvent il faut faire un petit peu d'exercice physique pour se sentir bien dans son corps et surtout sentir son corps. Et pour en parler, je suis avec deux spécialistes qui nous viennent de la région de Saint-Gaudens, des professeurs de yoga. Sophie Lautrec, bonjour.
Bonjour Bruno.
Olivier Mazet, bonjour.
Bonjour Bruno.
Sophie et Olivier, vous intervenez comme professeurs de yoga dans la région de Saint-Gaudens et vous avez une école de yoga, c'est ça ?
Alors, me concernant, oui, tout à fait Bruno. J'ai donc un studio de yoga à Estancarbon que j'ai ouvert en 2019. Donc, je suis bien sur la région de Saint-Gaudens, où je donne des cours hebdomadaires avec 6 professeurs au niveau du studio. Mais Olivier, lui, il vient de l'Ariège.
Oui, disons que Saint-Gaudens fait partie aussi du champ d'action de l'école de yoga, qui est l'école française de yoga Midi-Pyrénées, mais c'est une école de formation de professeurs de yoga. Donc, nous avons des élèves qui viennent de Bordeaux jusqu'à Montpellier, sud-Bordeaux, Montpellier, donc l'Ariège aussi.
Olivier, votre métier, c'est de former des professeurs.
Former des professeurs, oui.
On va commencer depuis le début. Le yoga, c'est quoi ?
Alors, le yoga, ça vient de l'Inde. Les premiers éléments qu'on a, ce sont des pratiques rituelles qui étaient dans la vallée de l'Indus, du Haut Indus, des gros bourgs qui existaient moins 6000, moins 7000 avant J.C. Et c'est ce qu'on appelle les Védas, qui sont les pratiques rituelles religieuses de ces peuplades qui se reliaient pour avoir des bonnes cultures, pour avoir des bonnes pluies, de la chasse, des terrains fertiles, la fécondité qui était en train de demander à l'environnement d'être clément avec eux. Et ces Védas ont été synthétisés dans des textes vers moins 1500 à peu près avant J.C. On a 4 grands recueils, le Rig Veda et puis les autres, je ne les connais pas tous. Et à partir de là, moins 1000, moins 1500, les Brahmanes, donc les gens qui étaient en charge de ces rituels, qui étaient les prêtres védiques, si l'on peut dire, à cette époque, ont commencé à réfléchir sur une démarche plus personnelle vis-à-vis du qui je suis moi pour demander à ce monde-là d'être bon avec moi. Et on a vu apparaître ce qu'on appelle les Brahmanas, qui ont été rédigés vers moins 500 avant J.C. à peu près, qui ont donc donné naissance à plutôt le brahmanisme. Il y a les Védas, il y a les Brahmanas. Et puis le troisième grand courant qui s'est mis en place, qui constitue le berceau du yoga, c'est ce qu'on appelle les Upanishads, qui sont des grands textes sacrés qui ont été rédigés moins 800 plus 1000. Il y en a 108 et il y en a 12-13 majeurs. Les majeurs ont été rédigés entre moins 800 et moins 500. Donc, brahmanisme, védisme et Upanishad, vous avez le corpus complet de ce qu'on appelle l'hindouisme. Et il y a toujours là-dedans la volonté d'être relié au monde, d'être en accord avec le monde qui nous entoure, donc de rechercher une union. Le mot yoga, et dans le mot yoga en sanskrit, il y a la racine yung. Yung, vous la trouvez dans jonction. D'en joindre. Quand on a un attelage de 2 bœufs pour tirer une charrette, eh ben, il faut un joug, et à partir de là, il n'y a plus 2 bœufs, il y a un attelage. Donc, la racine yung veut dire joindre, unir. Donc, dans le mot yoga, il y a toutes les pratiques de ces peuplades qui étaient de se relier, d'être unis avec le monde qui les entoure, et ensuite, l'élément fondamental des Upanishads qui a commencé à dire, d'accord, il y a ce monde céleste auquel on se relie, mais il y a aussi la notion d'être en unité avec soi-même. Donc le yoga vient de toutes ces pratiques, de tous ces peuples de l'Inde, depuis plus de 6000 ans, hein, de comment faire pour être me sentir en union à l'intérieur de moi-même et en union avec ce qui est autour de moi.
Ça, c'est l'histoire du yoga.
Oui.
Mais aujourd'hui, le yoga tel qu'il est pratiqué, tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est encore cette pratique, je dirais, mystique.
Oui et non. C'est-à-dire que ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il y a tout ce courant-là qui est un courant religieux. Et puis en même temps, il y a eu une pensée philosophique qu'on appelle le Samkhya. Et le Samkhya a été un raisonnement philosophique de quantité de sages indiens au cours de moins 1000 avant J.C. jusqu'à plus 500 à peu près, et qui a fini par définir une explication complète du monde sur le plan philosophique, non plus religieuse, philosophique. Et là-dedans, Il y a un texte qui s'appelle les Yoga Sutras, les Yoga Sutras de Patanjali, qui a été rédigé entre moins 500 et plus 200, et qui, lui, donne des indications très précises sur l'expérience sur le plan philosophique, non plus sur un plan religieux. L'expérience d'être en unité avec soi-même. Ça nous amène ça vers le début de l'ère chrétienne, et à partir de là, il y a une autre chose qui est venue fusionner, parce qu'il faut voir que jusqu'à cette époque, on parlait pas de posture, on parlait pas de pratique, on parlait pas de, il y avait rien de physique. C'était très philosophique ou religieux. Et en Inde, il y a une chose qui est fondamentale, qui fait partie de la culture indienne, qui s'appelle la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, qui est une médecine extrêmement répandue encore à l'époque aujourd'hui. Vous avez des hôpitaux ayurvédiques, des universités ayurvédiques. Il y a au moins un bon tiers de la population indienne qui ne se soigne qu'à l'ayurveda. Et dans la deuxième partie, de plus 500 à plus 1000, les grands maîtres de yoga ont été en plus des grands maîtres ayurvédiques. Et donc, on a vu apparaître les postures. On a vu apparaître les postures, on a vu apparaître dans le yoga non seulement le fait d'être en unité avec soi-même, en unité avec le monde, mais en même temps d'être en bonne santé. C'est-à-dire, si je suis en unité avec moi-même, dans cette unité, il y a être en bonne santé. Et donc, il y a toutes les postures du yoga sont des postures qui viennent de la médecine ayurvédique.
Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois yoga, quand j'entends parler yoga, je vois surtout des, comme vous dites, des postures, c'est-à-dire des positions spécifiques sur lesquelles je mets un bras en l'air, une jambe par terre, je croise les jambes, etc., etc. Et on viendra après sur l'explication de ces postures. Mais donc, ces postures qui sont destinées à stimuler certaines parties de mon corps pour être en bonne santé.
Ah, ces postures-là ont carrément été inventées dans un but thérapeutique. Les postures ont un effet sur l'estomac, sur le foie, sur la musculature, sur le système sanguin. Par exemple, la grande posture la plus classique que tout le monde connaît, qui est la posture sur la tête. Parce qu'on dit, au fait du yoga, ah, bah, tu fais la posture sur la tête. Non, bien entendu, évidemment. Mais on a ce qu'on appelle les postures inversées, dans lesquelles on met les pieds en l'air, sans être sur la tête. Et le fait d'inverser tout le circuit sanguin, déjà repose le cœur, décomprime les jambes, améliore l'ensemble de la circulation dans les jambes et dans la partie basse du corps, facilite aussi l'oxygénation du cerveau, la stimulation des glandes thyroïdes. Donc rien que par exemple cette toute petite posture qui est la chandelle, pour la prendre, que tout le monde connaît, elle a des effets thérapeutiques non négligeables. Toutes les postures ont été inventées avec un but thérapeutique.
Mmh. Ce qui veut donc dire que pour exécuter ces postures, il faut déjà une belle condition physique. Il faut déjà être soi-même déjà fort, et parce que lever les jambes en l'air et se mettre sur la tête, c'est déjà assez compliqué, non?
Alors, c'est très compliqué et c'est un peu le yoga classique que l'on trouve, que les Indiens pratiquent, ont pratiqué et continuent à pratiquer de manière majoritaire. C'est-à-dire que les Indiens ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la même alimentation, ils n'ont pas le même corps, ils sont végétariens, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne fument pas, ils mangent très peu, ils ont même un intestin différent du nôtre. Et donc, ils ont eu besoin, eux, pour stimuler et pour guérir leur corps. Ils ont par contre un environnement naturel dans lequel on tombe malade beaucoup plus facilement. Et donc, leurs postures sont assez exigeantes et elles leur permettent à eux d'être en bonne santé. Mais nous n'avons pas besoin de ce niveau-là d'exigence physique. On peut avoir les mêmes effets avec des postures adaptées.
Le yoga qu'on pratique, que vous enseignez ou qui est pratiqué dans les centres de yoga en France, c'est un yoga qui est adapté à nous, à notre culture, à notre mode de fonctionnement?
Alors, si vous voulez, toutes les pratiques techniques ont été mises en place au niveau de l'an 1000 et puis elles ont été codifiées dans un livre qu'on appelle la Hatha Yoga Pradipika vers 1470-1450, qui est un recueil de techniques de purification, de posture et de travail de la respiration. Le yoga indien, le Hatha Yoga, est pratiqué à partir de ce texte-là.
Hatha Yoga, ce qui signifie?
Hatha Yoga, ça veut dire yoga de l'action.
Yoga de la force.
Yoga de la force, oui. Le yoga, Hatha, c'est la force, tu as raison.
Peut-être faire gronder par les
puristes. C'est le Kriya Yoga qui est inclus. Donc, yoga de la force, dans lequel il y a une voie forte pour discipliner son corps, le maintenir en bonne santé, le purifier. Aujourd'hui, en Occident, vous avez, les gens ont commencé à ramener le yoga dans les années 70. Le Van Lisbeth, en Suisse, Neil Outhoff et d'autres professeurs de cette époque, ils allaient en Inde, ils pratiquaient avec des maîtres indiens, ils revenaient, ils faisaient faire la même chose. Et depuis donc 40 ans, le yoga a évolué. Il y a 40 ans, vous regardez quand vous pratiquez. Moi, je me souviens, on me regardait. C'est peut-être si je m'assieds sur des clous. Aujourd'hui, le yoga, vous en avez partout. Vous en avez partout. Donc, il y a eu une évolution. Il y a des gens qui continuent à pratiquer le Hatha Yoga traditionnel tel qu'il est. D'autres qui l'ont même fait évoluer vers des yogas plus en mouvement, qu'on appelle l'Ashtanga Yoga, qui ressemble un peu plus à de la gymnastique, si l'on peut dire, avec des grands effets thérapeutiques aussi. Il y a des personnes qui ont inventé carrément des pratiques occidentales, comme le yoga de l'énergie, qui a été inventé par Roger Clerc, Et puis, il y a une sorte de voie médiane aujourd'hui dans laquelle on est à la fois basé sur les textes les plus anciens, les Yoga Sutras, donc l'expérience originelle du yoga telle qu'elle a été décrite et codifiée il y a 2000 ans. Et on cherche à trouver comment nous, occidentaux, pouvons nous pratiquer avec notre corps, avec notre rythme de vie, de manière à pouvoir faire cette expérience.
Pour vous, la pratique du yoga, c'est faire une expérience dans son corps?
Dans son corps et dans son être. Dans son être. Dans le mot yoga, quand on dit unir, union, ça veut dire qu'on essaie déjà de réunir un petit peu tout ce qui nous compose. On a un corps, bien entendu, et il faudra bien aller jusqu'au bout avec. On a tout un système émotionnel, un système émotionnel énergétique. Okay, on a de l'oxygène qui nourrit nos cellules, notre respiration qui suit nos états émotionnels. Et puis, on a un mental que l'on connaît bien, avec lequel on travaille, on s'éduque, on apprend à vivre en société, on remplit nos impôts. On est valorisé pour cette capacité mentale, on est payé pour l'exercice de cette capacité mentale. Donc, on a grosso modo ces trois grandes composantes. Et déjà, la première des choses, c'est de faire en sorte que ces trois composantes soient en bonne harmonie dans notre manière de vivre tous les jours.
Donc, joindre ces trois composantes pour vivre en harmonie, c'est ça?
Voilà.
Et vous, Sophie, c'est ce que vous faites dans vos cours de yoga?
Alors, je crois que ce qui est peut-être important de rappeler, pour boucler un petit peu la boucle de tout ce qu'a expliqué Olivier, c'est que, effectivement, le yoga, c'est fait pour tout le monde. Le yoga, c'est pas qu'une gymnastique, et c'est certainement pas une gymnastique exigeante, comme on peut avoir tendance à le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment, qui trompe un petit peu hein, justement sur ce que c'est que la pratique du yoga. Donc c'est vraiment une pratique qui est accessible à tout le monde, à monsieur tout le monde, quand même à le dire Olivier. Et effectivement, en cours hebdomadaire, ce qu'on propose, c'est d'expérimenter cette pratique physique par une série de postures qui sont étudiées et adaptées pour qu'à la fin du cours, on se mette dans un état qui nous soit agréable. On va commencer par dire ça, hein, je crois que ça peut parler à tout le monde. Être dans un état agréable dans lequel on se sente bien. Voilà. Et ça ne demande aucune connaissance, ça ne demande aucune condition physique. On accueille tout le monde sur le tapis.
Donc, au-delà d'un simple exercice physique, d'après ce que vous me dites, c'est de la relaxation. C'est ce qui le différencie du Pilates, par exemple.
On propose aux gens de ressentir une forme de bien-être. Et on peut s'arrêter là. Après, on peut aller chercher plus loin, au-delà de l'aspect physique, cet état d'union dont parle Olivier. Hein. Et la différence avec le Pilates, c'est notamment tout ce qui est respiration.
Tu le dis bien, il faut la pratique, les gens viennent en cours hebdomadaire et pour un petit peu donner des éléments, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme résultat dans leur vie? Ben, au début, les premiers cours, ils vont ressortir, ils vont, comme tu dis et comme disait Bruno, ils vont être relaxés, ils vont se sentir tranquilles, ils vont arriver chez eux. Et tout à coup, ils vont être calmes, ils vont être plus calmes, plus centrés. Et puis, au fur et à mesure des cours et des années qui passent, ils vont commencer, comme c'est dit dans les Yoga Sutras, à être moins affectés par les dilemmes et les conflits de l'existence. Et puis, en continuant, ils vont tout à coup commencer à avoir une perception différente de ce qui se passe autour d'eux, des gens avec qui ils sont en relation, de ce qui est important pour eux, de ce qui est vraiment profondément important pour eux et pour leur environnement. Et ils vont se mettre à le faire. C'est-à-dire que cette pratique-là, petit à petit, en réunissant nos différentes composantes, nous amène naturellement et facilement à avoir une vie plus facile et meilleure. Gérard, mon professeur de yoga, Gérard Bis, disait « Le yoga sert à mieux vivre. » Et la salle, c'est l'endroit où on fait une expérience. La vie, c'est l'endroit où on pratique. Et pour terminer ce petit point, ce qui est très amusant, c'est que c'est souvent pas vous-même qui vous disent, c'est votre environnement. C'est-à-dire, très vite, quand une maman va faire ses cours de yoga et qu'elle est tout à coup ennuyée, « Mon Dieu, ce soir, j'ai pas préparé », c'est son mari et ses enfants qui disent « Non, va faire ton yoga, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème. » Ils y ont eux aussi un bénéfice.
Oui, donc on s'occupe effectivement du corps, mais aussi de l'esprit indirectement. On passe par le corps pour aller chercher cet apaisement de l'esprit.
Quand je vous entends également, ça signifie que lorsque j'entame un cours de yoga ou une session de cours de yoga, mais ça va durer tout le temps. C'est toute la vie. Donc, je suis obligé de faire tous les jours, d'aller régulièrement ou...
Alors, Bruno, j'ai envie de vous dire que à partir du moment où vous commencez à pratiquer, c'est rarissime les gens qui abandonnent, effectivement, parce que il y a tellement de plaisir, il y a tellement de bonheur dans cette pratique du yoga qu'une fois qu'on a mis un pied dedans, on n'en sort plus. Donc, c'est pas une obligation. Il faut pas que ce soit une obligation. Certainement pas.
C'est pas comme la salle de muscule.
Exactement. Exactement. Je crois que vous venez avec bonheur, tous les pratiquants qui viennent, viennent avec bonheur au yoga. Et je peux vous donner un exemple très concret. C'est qu'on a ouvert le studio à Estancarbon en 2019, juste avant la Covid. Donc, ça a été assez compliqué en 2020. Mais depuis, on n'arrête pas d'accueillir du monde. On a vraiment ouvert de plus en plus de créneaux au fil du temps. Et aujourd'hui, on accueille presque 180 personnes de façon hebdomadaire. Donc, y a quand même quelque chose qui se passe. Les gens viennent et ils reviennent.
Et juste pour rajouter, est-ce qu'on est obligé de le faire tous les jours? Non. Maintenant, quand c'est quelque chose qui est facile à faire, prend pas trop de temps et qui a vraiment des résultats exceptionnels dans ma vie, c'est vrai que je peux m'en passer, mais c'est pas un problème de le faire non plus.
J'ai envie d'y revenir.
Ça se fait tout seul, ça.
Ouais.
Alors, autre chose aussi, vous avez des groupes de niveau, parce que moi qui suis alors aussi souple qu'une bûche, je vais être ridicule par rapport à vos autres stagiaires qui pratiquent ces postures depuis X mois, années.
Alors, il y a quelque chose qui est fondamental en yoga, et le professeur le rappelle régulièrement, c'est que quand on se met sur son tapis, on laisse l'ego de côté. Ça ne nous intéresse pas de savoir si on fait la posture de la même façon que la personne qui est à côté ou de la même façon que le professeur. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience que vous allez en retirer pour vous. Donc, on ne se compare absolument pas aux voisins. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, il n'y a pas de cours de niveau. Enfin, en tout cas, oui, certaines écoles proposent des cours de niveau débutants, etc. Personnellement, moi, je ne le fais pas. Les profs au studio le font pas non plus. On accueille tout type de niveau, entre guillemets, dans un cours, parce que le professeur est là pour aider l'élève à adapter sa pratique. On a des supports, on a des moyens régulateurs qui permettent à tout le monde de pratiquer le yoga.
Olivier, quelles sont les personnes qui viennent se former au yoga, les professeurs? Ce sont des gens qui ont déjà pratiqué depuis plusieurs années? Ce sont des gens qui tout d'un coup ont une révélation?
L'école a 20 ans maintenant. On va ouvrir en octobre la promotion 8. Au début, il y a eu des gens qui enseignaient beaucoup, qui voulaient absolument être prof de yoga, qui avaient besoin d'un diplôme, qui avaient besoin de faire une école, qui avaient aussi un certain âge. Et puis au fil des promotions, je dirais que depuis la promotion 4, maintenant on a de plus en plus de gens plus jeunes, entre 25 et 45 ans, qui travaillent tous et qui maintenant à 90% viennent faire du yoga pour eux. Ils viennent faire un approfondissement. Ils ont commencé à faire du yoga dans un cours chez Sophie, par exemple, une fois par semaine, puis ils se sont dit que deux fois par semaine, c'était bien. Ils ont suivi quelques petits samedis d'approfondissement. Ils sont allés faire un ou deux stages de week-end de bien-être, de yoga, pour voir un peu plus. Et puis, tout à coup, ils se disent, mais ça me va bien. Et comme tu le disais très bien, ben, ils ont envie que ça soit de plus en plus présent dans leur vie. Donc, ben, une école de formation, c'est une cadre, une structure. Il y a un certain niveau d'apport sur le plan des connaissances, sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la compréhension de sa propre pratique. Et le fait de comment la diriger, qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent approfondir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je dirais qu'on ne forme plus des profs de yoga. On fait faire une expérience et on apprend aux gens à la transmettre. Mmh. Et je dirais que, bon, de toutes les façons, en la faisant d'une certaine manière, pendant la formation, ils sont parfaitement formés à la transmettre. Ils deviennent des transmetteurs.
Si je peux juste compléter ce que dit Olivier, personnellement, moi, je suis allée me former donc dans l'école dont Olivier est directeur, non pas pour enseigner le yoga qui est proposé dans cette école au démarrage, mais pour en apprendre un petit peu plus sur les textes notamment, parce que la richesse de cette école-là, c'est l'étude des Yoga Sutras, donc un des textes fondateurs du yoga. Donc effectivement, tous les professeurs qui se forment dans cette formation viennent d'horizons complètement différents, avec des perspectives différentes.
Certains ont 10 ans de yoga, mais d'autres ont commencé le yoga il y a un an. Comme on le dit, c'est une expérience personnelle. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de niveau. Par contre, on voit bien qu'à un certain moment dans le cours, certains sont dans un type d'expérience et d'autres une autre. Et là, il y a des nuances. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de notes, il n'y a rien.
On est tous différents, donc l'expérience, elle est différente.
Et elle sera ce qu'elle sera, mais elle est toujours dans le sens de recréer cette unité à l'intérieur et en même temps, petit à petit, d'avoir un bagage d'unité suffisamment en termes de rémanence pour qu'également, on se relie différemment à ce qui est autour de nous.
Donc, si je résume un petit peu, c'est de créer une harmonie à l'intérieur pour qu'elle rayonne cette harmonie à l'extérieur.
Magnifique.
Je n'aurais pas mieux dit.
Non. Magnifique.
Donc ça, c'est la première approche donc du yoga qui, je rappelle, donc c'est pour être en forme, bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est une expérience à faire qui concerne tout le monde. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi quand même contacter l'école de yoga qui se trouve à Estancarbon.
C'est ça.
Et vous trouverez des informations sur Internet, sur votre moteur de recherche favori. Et surtout, bon voilà, c'est au moins faites l'expérience. Et il n'y a pas besoin d'être un grand sportif ou d'être ultra souple pour le faire.
Au contraire.
Sophie, Olivier, merci.
Merci, merci,
merci
beaucoup.
Et
Bruno.
Puis, à bientôt peut-être.
À très bientôt.
Et avec plaisir.
Au sud de Toulouse, j'écoute Radio Galaxie et j'aime ça.